Il y a 10 ans, je sonnais, amené par un ami, à la porte de Madame B, qui a, professionnellement, commerce avec les esprits. Elle nomme ainsi ce qui demeure, errant autour de nous, des défunts, particulièrement de ceux qui nous tinrent de près par le sang et par l'amour. N'attendez pas que je professe une foi quelconque, ni même que je fréquente de passion les privilégiés qui lisent couramment l'invisible. Il s'agit d'une curiosité, toujours la même, qui me conduit indifféremment à visiter tour à tour Madame B, la femme à la bougie, le chien qui compte, un rosier à fruits comestibles, le docteur qui ajoute du sang humain à mon sang humain, que sais-je encore? Si cette curiosité me quitte, qu'on m'ensevelisse, je n'existe plus. Une de mes dernières indiscrétions s'adressa au grand hyménoptère d'acier bleu qui abonde en Provence pendant la floraison des soleils, en juillet-août. Tourmenté d'ignorer le nom de ce guerrier bardé, je m'interrogeais. A-t-il ou non un dard? Est-il seulement un samouraï magnifique et sans sabre? Je suis bien soulagée d'être tirée d'incertitude. Une curieuse petite déformation sur l'os d'une phalangine atteste que le guerrier bleu est armé à merveille et prompt à dégainer. Chez Madame B, j'eus l'agréable nouveauté d'un appartement moderne, traversé de soleil. Sur la fenêtre, chantaient des oiseaux en cage. Dans la pièce voisine, des enfants riaient. Une aimable et ronde femme à cheveux blancs m'affirma qu'elle n'avait besoin ni de clair-obscur, ni d'aucun maléfique décor. Elle ne réclama qu'un instant de méditation et ma main serrée dans les siennes. « Vous voulez me poser des questions ?» me demanda-t-elle. Je m'avisai alors que j'étais sans avidité, sans passion, pour un au-delà quelconque, sans souhait immodéré, et je ne trouvais rien à dire sinon le mot le plus banal. « Alors vous voyez les morts, comment sont-ils ?»«
Comme les vivants, » répondit Madame B, avec rondeur.
« Ainsi, derrière vous, » derrière moi, c'était la fenêtre ensoleillée et la cage des serins verts. « Derrière vous est assis l'esprit d'un homme âgé. Il porte une barbe non taillée, étalée, presque blanche. Les cheveux assez longs, gris, rejetés en arrière. Des sourcils, oh, par exemple, des sourcils, tout broussailleux. Et là-dessous, des yeux, oh, mais des yeux, petits, mais d'un éclat qui n'est pas soutenable. Voyez-vous qui ça peut être?
Oui, très bien.
En tout cas, c'est un esprit bien placé. Bien placé dans le monde des esprits. Il s'occupe beaucoup de vous. Vous ne le croyez pas?
J'en doute un peu.
Si, il s'occupe beaucoup de vous, à présent.
Pourquoi à présent?
Parce que vous représentez ce qu'il aurait tant voulu être sur la terre. Vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être. Lui, il n'a pas pu.
Je ne mentionnerai pas ici les autres portraits que me fit Madame B. Ils valaient tous à mes yeux, par quelques détails dont la vigueur et le secret m'enchantèrent, comme une sorcellerie anodine et inexplicable. D'un esprit où je fus bien obligée de reconnaître, trait pour trait, mon demi-frère, l'aîné, elle dit, apitoyée, « Je n'ai jamais vu un mort aussi triste. »
Mais, lui dis-je, vaguement jalouse, « ne voyez-vous pas une femme âgée qui pourrait être ma mère ?»
Le bon regard de Madame B errait autour de moi.
« Non, ma foi, » répondit-elle enfin.
Elle ajouta, vive, et comme pour me consoler, « peut-être qu'elle se repose. Ça arrive. »
« Vous êtes seule d'enfant ?»«
J'ai encore un frère. »
« Là !» s'exclama bonnement Madame B. Sans doute qu'elle est occupée avec lui. Un esprit ne peut pas être partout à la fois, vous savez.
Non, je ne le savais pas.
J'appris dans la même visite que le commerce des défunts s'accommode de lumière terrestre, de familière gaieté. Ils sont comme les vivants, affirme paisible dans sa foi Madame B.
Pourquoi non?
Comme les vivants.
Sauf qu'ils sont morts.
Morts.
Et voilà tout.
Aussi s'étonnait-elle de voir en mon frère aîné un mort aussi triste. Ainsi l'ai-je vu, ainsi le voyait-elle à travers mon perméable mystère, sans doute, très triste en vérité, et comme roué de coups par son pénible et dernier passage, encore soucieux et fourbu.
Quant à mon père, vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être,
et de son vivant il n'a pas pu.
Là, j'ai de quoi rêver, de quoi m'émouvoir. Sur un des plus hauts rayons de la bibliothèque, je revois encore une série de tomes cartonnés, à dos de toile noire. Les plats de papier jaspé, bien collés, et la rigidité du cartonnage attestaient l'adresse manuelle de mon père. Mais les titres, manuscrits en lettres gothiques, ne me tentaient point, d'autant que les étiquettes à filet noir ne révélaient aucun auteur. Je cite de mémoire « Mes campagnes, les enseignements de 70 », la géodésie des géodésies, l'algèbre élégante, le maréchal de MacMahon vu par un de ses compagnons d'armes, du village à la chambre, chanson de zouave, j'en oublie. Quand mon père mourut, la bibliothèque devint chambre à coucher, les livres quittèrent leurs rayons. « Viens donc voir !» appela un jour mon frère, l'aîné. Il transportait lui-même, classait, ouvrait les livres, taciturne, en quête d'une odeur de papier piqué, d'une de ces moisissures embaumées d'où se lève l'enfance révolue, d'un pétale de tulipe sec, encore jaspé comme l'agate arborescente. « Viens donc voir !» La douzaine de tomes cartonnés nous remettait son secret, accessible, longtemps dédaigné. 200, 300, 150 pages par volume. Beau papier vergé crémeux ou écolier épais, rogné avec soin, des centaines et des centaines de pages blanches. Une œuvre imaginaire, le mirage d'une carrière d'écrivain. Il y en avait tant, de ces pages respectées par la timidité ou la nonchalance, que nous n'en vîmes jamais la fin. Mon frère y écrivit ses ordonnances. Ma mère couvrit de blanc ses pots de confiture. Ses petites filles griffonneuses arrachèrent des feuillets. Mais nous n'épuisâmes pas les cahiers vergers, l'œuvre inconnue. Ma mère s'y employait pourtant avec une sorte de fièvre destructive. « Comment, il y en a encore ? Il m'en faut pour les côtelettes en papillote. Il m'en faut pour tapisser mes petits tiroirs. » Ce n'était pas dérision, mais cuisant regret et besoin douloureux d'anéantir la preuve d'une impuissance. J'y puisais à mon tour, dans cet héritage immatériel, au temps de mes débuts. Est-ce là que je pris le goût fastueux d'écrire sur des feuilles lisses, de belles pattes et de ne les point ménager? J'osais couvrir de ma grosse écriture ronde la cursive invisible, dont une seule personne au monde apercevait le lumineux filigrane qui jusqu'à la gloire prolongeait la seule page amoureusement achevée et signée, la page de la dédicace. À ma chère âme, son mari fidèle, Jules-Joseph Colette.